Nous allons ouvrir le Saint-Livre. Dans le premier livre de Samuel, s'il vous plaît. Vous avez certainement tous été touchés par la façon dont Dieu a utilisé ce jeune garçon. Le contexte et la souffrance. C'est presque toujours comme ça d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais lorsque Dieu utilise quelqu'un ou va utiliser quelqu'un, presque tout le temps, le contexte, c'est un contexte d'apostasie, de déclin et de souffrance. Dans Samuel, au chapitre 1er, on voit une femme qui souffre. Elle souffre depuis des années. Vous savez, on peut rester dans le désert quelques semaines, quelques mois, quelques années. Ça dépend de la façon dont on apprend à s'appuyer sur Dieu. Vous vous rappelez hier ce texte, cette question que j'ai prise dans le livre du Cantique des Cantiques ? Ou alors que tout baigne dans l'amour, dans les palais, dans les verts pâturages, dans les eaux, etc. C'est merveilleux cette communion. Tout d'un coup, il y a une question qui sort comme ça, comme si elle n'était pas appropriée, mais elle l'est, croyez-moi, qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé. Le seul moyen de sortir d'une situation, c'est toujours d'être appuyé sur Dieu. Voilà pourquoi des déserts durent longtemps. Là, dans 1 Samuel, au chapitre 1er, on voit une femme qui est dans la souffrance. Et quand vous prenez toutes les expressions de la souffrance, c'est une grande souffrance. C'est bien qu'on voit le contexte. 1 Samuel 1, verset 5. Alors, bien sûr, son mari, lui, ne savait pas trop quoi faire. Alors, il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Souvent, on me pose la question, l'adversité, est-ce qu'elle peut venir de Dieu ? C'est une question, c'est une vraie question. Il y a des gens qui s'imaginent que l'adversité ne vient que du diable. L'adversité, elle peut venir du diable, c'est vrai, quoique Dieu aussi l'autorise, parce que s'il ne veut pas, elle ne viendra pas. L'adversité vient de nos péchés, souvent. Le péché, quand il est consommé, qu'est-ce qu'il produit ? La mort. Cette mort, pas forcément la mort physique, mais la mort de plein de choses. Donc, l'adversité vient de trois choses. Ou de l'ennemi, que Dieu autorise, ou de Dieu, qui sait ce qu'il fait, pour que ses plans s'accomplissent, ou alors de notre propre péché. Alors là, c'est important de savoir, quand c'est notre propre péché, pour pouvoir le régler. Donc, cette femme, elle est stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Vous voyez, quand on souffre, en plus, il y a toujours des gens autour. C'est toujours des gens, comme les amis de Job, ils auraient mieux fait de se taire. Des fois, il vaudrait mieux se taire, mais enfin, c'est comme ça. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, vous voyez, ça a duré combien, on ne sait pas, si c'est 3 ans, si c'est 10 ans. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Alors lui, bien sûr, il faisait de son mieux, c'était un brave homme sûrement. Mais il y a des choses, votre mari ou votre femme ou vos enfants, vos proches ou votre pasteur ou quelqu'un ne pourra pas le faire. Il faut l'accepter, ça. Et au verset 9, il y a la clé de cette histoire. Anne se leva. Verset 10, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Comme quoi, ce n'est pas parce qu'on est dans l'amertume qu'il ne faut plus prier. Il y a des gens, quand ils sont dans l'amertume, eh bien, ils décrochent. « J'en ai marre. » Et c'est fini. Ils abandonnent Dieu. Verset 13, verset 12, hein, « Comme elle restait longtemps. » Je répète, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Ce n'est pas une méthode, elle en avait besoin. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Et je ne sais pas si vous êtes sérieux par rapport à cette parole. Vous savez, nous, on prie à haute voix dans l'Église. C'est bien ? Est-ce que c'est bien de prier à haute voix ? Oui, il faut prier. De toute façon, qu'on prie à haute voix, ou à mi-voix, ou dans son cœur, ce qu'on fait, il faut le faire de tout son cœur. Toujours, il y a une dame qui m'appelait, elle me disait, Monsieur Gourge, on va souvent avec mon mari au restaurant et parfois, bon, on ne sait pas s'il faut prier, à murmurer, à haute voix, dans son cœur, quand on rend grâce au restaurant. Je dis, écoutez, faites ce que vous voulez. Par contre, faites-le de tout votre cœur. Après tout, franchement, c'est quoi le plus important? C'est qu'on fasse les choses de tout son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Voyez le discernement des serviteurs de Dieu. Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est là que la bénédiction a commencé. Une prière qui a été faite dans un cœur. Et ça vaut la peine, si vous avez une concordance, que vous regardiez toutes les fois que certaines choses ont été vécues dans le cœur. Comme Michal. Vous savez qui c'est, Michal? Vous savez qui c'est? C'est une femme, c'est la première femme de David. Et quand David a ramené l'arche, j'y pense, je ne sais pas sur mes notes, mais ça fait rien. Il est dit qu'elle l'a méprisé dans son cœur. Vous voyez, il n'y a pas de parole. Mais ça, c'était dans son cœur. Elle l'a méprisé dans son cœur. Personne ne savait, bien sûr, sauf le Seigneur. Ça ne lui a pas porté chance. Vous savez, au travers de ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que s'il y a bien une chose qu'on devrait apprendre, peut-être pas au début, parce qu'au début, on est des enfants spirituels, mais c'est que nous ne devrions jamais nous comparer à quelqu'un. Le Seigneur nous a créés de telle sorte qu'on est tous différents et que tous on a reçu quelque chose de particulier pour le corps de Christ. Et le diable se charge, croyez-moi, le diable se charge de nous le faire oublier pour que nous devenions indépendants alors que l'œuvre de Dieu, c'est la priorité de Dieu. L'œuvre, la priorité de Dieu, c'est le corps de Christ. On doit travailler ensemble. C'est ce qu'on va voir ce matin. Ne prends pas ta servante, verset 16, pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Vous voyez, elle est dans le douleur et dans le chagrin. Enfin, quand on voit tout, c'est costaud quand même. Mais elle est dans la maison de Dieu. Elle est à sa place. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Et la grande histoire du prophète Samuel a commencé là. Dans la souffrance, je pense à Benjamin, vous voyez, le tout petit frère de Joseph. C'est pareil. Entre Joseph et Benjamin, il y a eu une histoire. Et qu'est-ce qui est arrivé à la mère de Benjamin quand il est né, Benjamin? Elle est décédée, dans la souffrance. Et je ne veux pas noircir le tableau, mais je voudrais vous dire qu'il y a de la souffrance. Il peut y avoir de la souffrance dans nos familles, de la souffrance dans le corps de Christ, de la souffrance dans une nation, de la souffrance dans un cœur. Beaucoup d'incompréhension de la part de nos proches, de la part des serviteurs de Dieu. Cette histoire, elle est extraordinaire. Mais ce qu'il faut que nous comprenions, écoutez-moi mes frères et sœurs, parce que je pense que beaucoup de chrétiens n'ont pas les yeux fixés sur Dieu. Comme on l'a entendu dans le don spirituel, beaucoup de gens ont les yeux fixés sur le sable. Mais il faut comprendre une chose mes frères et sœurs. Quand Dieu a commencé quelque chose, il le termine. Il faut bien le comprendre. Il le terminera avec nous ou sans nous, ça c'est autre chose. Mais je peux vous dire, c'est biblique. D'ailleurs, regardez un peu plus loin, on le voit quand l'histoire de Samuel se met en place et qu'il va l'utiliser, c'est qu'un enfant. Regardez chapitre 1, 3, verset 12. J'entrecoupe mon sermon, mais il faut que vous compreniez cette première pensée. 1 Samuel 3, verset 12. C'est Dieu qui parle, c'est un enfant, c'est qu'un enfant. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Dieu est le Dieu des commencements. Quand, Zorobabel est fatigué parce qu'il y a de l'adversité, Dieu lui envoie Zacharie et il lui donne cette parole. Les mains de Zorobabel ont commencé cette maison et ses mains l'achèveront. Ce sont des paroles qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre dans nos sermons. Mais il faut bien que nous comprenions une chose. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. Vous voyez, même moi le premier, je ne suis pas capable, et ça ne me regarde peut-être pas d'ailleurs, quelque part. Mais pourquoi nous sommes ici? Sérieusement. Les gens vont dans les églises, les gens vont louer, célébrer, tout ça, on le fait d'une manière plus ou moins profonde, c'est la vérité. Mais en vérité, quand Dieu nous regarde, comme c'est le cas, est-ce que nous comprenons qu'au calvaire, à la Pentecôte, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, a commencé une œuvre qui se résume par cette appellation le corps de Christ. Que cette œuvre, Dieu, il va l'achever. Et que Dieu, dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Enfin, ce qu'il veut, vous avez compris. Il sait ce qu'il fait. Et s'il veut attendre qu'un homme ait 80 ans, comme Moïse, où Dieu a attendu qu'il ait 80 ans, et pendant 40 ans dans le désert, Dieu a formé cet homme pour qu'il devienne l'homme qu'il devait être, le serviteur qu'il devait être pour les autres. Car mes frères et sœurs, quand Dieu nous forme, sinon il ne nous formera pas de toute façon, quand Dieu nous forme, c'est pour les autres. C'est pour l'Église. Et cette souveraineté, il faut bien qu'elle nous amène à comprendre qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas que nous nous comparions, que nous comparions les choses, que vous vous compariez à quelqu'un. Il n'y a qu'une personne comme vous sur la terre. Mais cette personne doit absolument recevoir quelque chose. Même s'il y a un contexte de souffrance, de grande souffrance. Beaucoup de gens dans la souffrance décrochent. Jonathan, dans l'introduction des chants, nous parlait des gens qui, quand ils sont dans la joie, décrochent. Et c'est vrai que les gens, de toute façon, les gens, ils décrochent les mêmes. Ils sont dans la joie, ils décrochent. Ils sont dans la souffrance, ils décrochent. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu, parce qu'il est Dieu. Ils aiment le Seigneur pour ce qu'il donne. Mais il faut aimer Dieu parce qu'il est Dieu. C'est-à-dire, c'est ça l'adoration. Et ce matin, je suis poussé vraiment à ce que nous comprenions bien que la première des choses, c'est que nous ne nous comparions jamais à quelqu'un. Soyez vous-même et le serviteur et la servante que Dieu veut que vous soyez. Qu'il vous appelle sur le tard, comme c'était le cas pour Moïse, qui pourtant à 40 ans avait toutes les facultés pour être l'homme qu'il fallait. Il n'y avait pas mieux. À 40 ans, il était dans des conditions parfaites. Et pourtant, vous voyez, Dieu a attendu qu'il soit plus vieux et qu'il soit peut-être même un peu en difficulté pour s'exprimer, parce que Dieu ne regarde pas ça. Et là, dans un contexte de grande souffrance, d'apostasie, dans un contexte de déclin spirituel, quand vous, parce que c'est nous, des fois, on parle des hommes, tout ça, que Dieu a utilisé, mais il faut quand même réfléchir à ce qu'ils, dans quel contexte il vivait. Samuel, cet enfant, n'avait aucun repère, à part sa mère. À part sa mère, oui. Mais peut-être qu'il y en avait d'autres, j'espère. Mais dans l'enseignement biblique, il n'y avait qu'un enfant susceptible de faire mouvoir le bras de Dieu. Un enfant. Un enfant qui a dû apprendre. Il n'a pas pu apprendre par Élie. Bon, il aurait pu malgré tout. Bon. Comment vous apprenez-vous? Comment nous apprenons à servir Dieu? Est-ce que Dieu aurait pu enseigner Samuel directement par le sacrificateur Élie? Oui. Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, eh bien, confie-le à d'autres. À des hommes fidèles. Donc la transmission se fait parfois d'un homme à un autre, d'un serviteur plus âgé à un serviteur plus jeune, pour que la transmission se fasse. Et c'est ainsi que les siècles ont passé et qu'il reste le corps de Christ, bien dans l'apostasie, dans bien des endroits. Mais Dieu, lui, il sait ce qu'il veut faire. Vous dites, il faudrait ceci, il faudrait cela, pour que l'Église... Parce qu'il y a des gens qui sont doués, ils sont forts. Il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, et il faut que l'Église prie, et il faut que l'Église fasse ceci, il faut que l'Église... Mais tout ça, mes frères et sœurs, c'est des paroles. Hein. Est-ce que tu fais, est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? C'est bien de faire des bilans, mais ça ne sert à rien. Nous avons là l'explication de la façon dont Dieu s'y prend, qu'il prenne un enfant, et je ne sais pas pourquoi il y a peut-être ce matin un enfant. Vraiment, je le pense. Parce que des fois, Dieu parle à tout le monde, mais il y a parfois des prédications où il y a quand même une insistance pour quelqu'un. Et en priant cette semaine, en plus j'étais prié à la fois par le mariage d'hier, donc je sais que j'avais deux pensées dans mon esprit qui se croisaient. Mais vraiment, quand je priais pour ce matin, j'ai dit, c'est pas possible, il y a un enfant dans l'église que Dieu veut toucher. De la même manière qu'il peut toucher quelqu'un qui soit adolescent. Quand Samuel pleure, il pleure parce que Saül a décroché. Il pleure pas parce que c'est pas sentimental. Il y a des pleurs qui sont sentimentaux. On pleure parce qu'on est ému. On pleure parce que ça nous touche. Lui, ça ne le touchait pas à lui. Il savait très bien que le peuple d'Israël était en danger parce que le roi était loin de Dieu. Et quand quelqu'un est loin de Dieu, quand un pasteur est loin de Dieu, ça va affecter l'Église, etc. Vous le comprenez. Plein de choses comme ça. Quand un leader est loin de Dieu, ça va affecter les gens dont il a la responsabilité. C'est évident. Il pleure et Dieu lui dit, mais quand cesseras-tu de pleurer? Va, remplis ta corne d'huile. Il a appris. Et c'est ça que je voudrais que nous comprenions ce matin. C'est que même si le contexte est compliqué, mais archi compliqué, parce que là, vraiment... Si vous avez lu le contexte, le pays entier était dans l'apostasie. Et alors qu'il faudrait, pour moi bien sûr, il faudrait un homme de poigne, oui ou non? Le pays entier dans l'apostasie. Donc il faut quelqu'un, et Dieu va prendre un enfant. Moi, c'est des choses qui me... J'étudie l'Église, cette prédication, je ne savais pas s'il me fallait la faire d'ailleurs pour les responsables ou pour l'Église. Et puis, à force de prier, j'ai compris que c'était une prédication qui était bien pour l'Église aussi, dans le sens où elle nous permet de comprendre que quand Dieu a commencé quelque chose, il va l'achever. Dieu a commencé, je le répète parce que c'est important, mes frères et sœurs, Dieu a commencé l'Église. Et il l'achèvera, que son nom soit béni. Et quand le dernier sera rentré, l'Église partira. Vous croyez que l'Église partira? Oui, parce qu'on n'a plus notre place ici, on est des étrangers sur la terre. On partira. On partira tous ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni, mais voilà, même si ça va très mal, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. La pensée qui est vraiment dans mon cœur, c'est que même si tout va très mal, Dieu peut prendre un enfant et le former. Alléluia. Et dans un pays où tout va mal, dans un contexte de souffrance, il ne faut pas s'isoler, car écoutez-moi bien mes frères et sœurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens que de nom. Il y a des chrétiens qui sont là peut-être, ce n'est pas du mépris, franchement, vous me connaissez. Mais il y a des chrétiens, ils viennent, c'est pour eux. Bien sûr qu'on a besoin, de recevoir de communion fraternelle. Moi, ça me fait du bien quand vous me dites que vous m'aimez. Et vous me le dites souvent, et franchement, ça me va. On a besoin de recevoir, on aime recevoir. Mais il y a des gens, c'est que ça. Ils viennent, c'est pour eux, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que lorsque Dieu nous sauve, bien sûr, c'est pour pas qu'on aille en enfer. Bien sûr, c'est pour nous avoir avec lui pour l'éternité. Bien sûr qu'il y a plein de bénédictions qui sont rattachées à l'appel. Mais quand Dieu nous sauve, c'est pour que l'on soit en bénédiction à l'œuvre de Dieu. Et remarquez que dans ce contexte de souffrance, moi je suis peiné quand je vois la quantité de gens qui dans la souffrance, dans le déclin et dans l'apostasie, qui est là, parce que là on ne peut pas le nier, le monde entier est dans l'apostasie, et le monde entier va s'apostasier, l'Église va s'apostasier davantage. Mais vous croyez que Dieu est bloqué par ça? Quand Dieu veut faire quelque chose, il lui faut quelqu'un. Quelqu'un qui va travailler pour l'Église, pour le corps de Christ. Quel que soit l'âge. David avait quel âge quand Dieu l'a appelé? Il était adolescent. On ne sait pas son âge, mais on pense qu'il avait 17 ans, 18 ans, voyez. Vous regardez les hommes, tels les hommes. Jésus, il a commencé à quel âge? Quel âge il a commencé? Environ 30 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez, quel âge spirituellement, quel âge vous avez, peut-être aussi. Mais mes frères et sœurs, il faut que nous comprenions une chose. Quand Dieu suscite quelqu'un, je le répète parce que franchement, je ne connais pas tout à fond, mais je sais quand même qu'il y a ce contexte de souffrance. Parce qu'il y a de la souffrance lorsque les gens vont en enfer, lorsque les chrétiens rétrogradent, ça provoque de la souffrance. Lorsque des chrétiens sont charnels, voyez, Pénina, bon, vous allez me dire, pourquoi il avait deux femmes? D'accord, mais c'était l'Ancien Testament. Mais il n'empêche que souvent ce sont les gens proches de nous qui peuvent nous faire du mal. Oui ou non? Et c'est dommage. Ça prouve que même dans nos familles, nous ne nous connaissons pas bien forcément. Vous voyez, une sœur ne peut ne pas connaître sa propre sœur, etc. Il y a des choses compliquées. Il y a de la souffrance. Et Dieu, on a l'impression que Dieu en rajoute une couche, excusez-moi l'expression, Dieu le permet. Dieu avait rendu Anne stérile parce que la souffrance nous change. La souffrance nous change quand on est spirituel. Parce que quand il est dit que tout concourt au bien, s'il est dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La souffrance, ça éloigne plein de gens de Dieu. La souffrance, ça fait plein de rétrogrades. Mais les gens spirituels utilisent la souffrance pour devenir meilleurs. Regardez franchement le comportement. Le comportement de Paul. Est-ce que Paul a souffert? L'apôtre Paul a beaucoup souffert. Vous êtes d'accord? Il a énormément souffert, de la part de tous. Vous avez vu, j'y pense, je les ai en tête, mais on ne va pas le lire. Écoutez bien, frères et sœurs. Toutes les souffrances que Paul a traversées, il les a utilisées pour mûrir spirituellement. Oui ou non? C'est. S'il est certain que nous n'avons pas à nous comparer, il est quand même certain aussi que nous pouvons imiter la foi de certains hommes. Toutes les souffrances, toutes, vous pouvez le lire, vous pouvez le relire, et bien vous savez que c'est vrai. Toutes les souffrances, et je le répète, il a souffert dans tous les sens, de la part des juifs, de la part des païens, il a de partout il a souffert. Il a tout transformé pour mûrir spirituellement. C'est beau quand même. Quand quelqu'un, quel que soit ce qu'il traverse, l'utilise pour faire des progrès avec Dieu. Et pourtant au départ, c'était quand même pas gagné cette affaire. Enfin, de la part des hommes, puisqu'il est dit que Paul, ou Saul de Tarse, respirait le meurtre et la menace. Mais Dieu qui voit dans le cœur savait ce que deviendrait ce jeune homme. Puisque lui, il était dit que quand on a déposé les affaires de Philippe, vous savez qui a été, d'Étienne, qui a été lapidé, comme par hasard, on a déposé les habits d'Étienne aux pieds d'un certain jeune homme qui s'appelait Saul. Vous voyez comment il y avait un premier rendez-vous avec Dieu au travers de cette affaire. Vous voyez comment, c'est pas le hasard, vous le comprenez bien. Bon, il n'a pas compris, Saul. Il a fallu un autre événement un peu plus fracassant. Mais Dieu a préparé. Et mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais sincèrement, si nous étions spirituels, intelligents, je le dis de manière intelligente, nous utiliserions tout, mais tout, comme Anne, tout ce qu'elle a vécu, c'était costaud quand même, tout ce qu'elle a vécu. Beaucoup auraient abandonné depuis longtemps. Mais elle s'est retrouvée dans le temple de Dieu, en plus avec le pasteur qui lui a fait des raisonnements. Mais elle ne regardait pas ça. Elle s'était levée ce matin-là. Et elle a dit, je veux avoir affaire à ce Dieu vivant. Vous savez, on a chanté, il est beau le dernier cantique. Te connaître. Vous le mettez, s'il vous plaît. Vous avez vu ce qu'on a chanté? Sérieusement. Est-ce que c'est l'expression de notre âme? De notre âme. Te connaître, Jésus. Il n'est rien de meilleur. Le couplet d'avant, s'il vous plaît. Vivre de... Ah bon, non, celui-là. Vous ne voulez pas le mettre, celui-là? Vivre de ta vie de résurrection. Communier Jésus. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai mis. Communier à tes souffrances. C'est ça, c'est exactement ce qu'on a chanté. Communier à tes souffrances. Beaucoup de chrétiens disent non, stop, merci. Mais parce que pour nous, la souffrance, c'est quelque chose qu'on ne gère pas. Mais la souffrance, ça devrait nous permettre de faire des progrès. Toutes les souffrances. Dieu ne se moque pas de nous. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait au niveau physique, peut-être vous traversez une épreuve. Est-ce qu'on peut souffrir physiquement? Est-ce qu'on peut souffrir au travail? Est-ce qu'on peut souffrir dans le couple? Est-ce qu'il peut y avoir dans le couple, est-ce qu'il peut y avoir des fois des conflits? Qui est marié qui n'a jamais eu de conflit? Venez me voir, s'il vous plaît. Votre témoignage m'intéresse. Parce que vraiment, là, vous en êtes dans un conflit grave. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? La souffrance, bien sûr, nous, dans les églises, hors de question de parler de souffrance. Jésus guérit. Et bien sûr qu'il guérit. Gloire à Dieu. Je pense qu'on est plusieurs parmi cet auditoire à témoigner que Jésus guérit. Mais il y a des choses plus importantes que la guérison. L'apôtre Paul est resté infirme toute sa vie. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine que Paul reste infirme toute sa vie? Eh oui. Pourquoi Dieu l'a rendu infirme? Vous savez pourquoi? C'est écrit. Pour pas qu'il devienne orgueilleux. Ça valait la peine que Paul ne devienne pas orgueilleux? Moi, je pense que oui. Est-ce que ça valait la peine qu'il reste infirme toute sa vie? Ben oui. Est-ce que c'est bien qu'on ait tous ces livres de l'apôtre Paul? Et nous sommes dans un contexte pareil que du temps de Samuel, du temps de Anne. Le corps de Christ va mal. Presque partout, les églises sont en difficulté. Presque partout, les églises sont dans l'apostasie. On est dans une illusion pas possible. Mais Dieu, lui, qui règne, il va susciter ou des enfants. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que si vous avez des enfants, appliquez-vous à leur enseigner les voies de Dieu. Ça ne coûte rien de prendre un verset de la Bible le soir. Quand on les couche, qu'est-ce que ça coûte de prendre un verset des Proverbes et de prier 2 ou 3 minutes, « Prie mon fils ». Vous ne croyez pas que c'est une grâce, hein? Quelle que soit la souffrance, parce que ne nous leurrons pas. Le diable, lui, ce qu'il veut, c'est détruire la communion. Parce que quand Dieu nous bénit, c'est pour les autres. Ne vous imaginez jamais que quelqu'un qui se tient à l'écart fera des progrès. La Bible dit que celui qui se tient à l'écart s'irrite contre tout ce qui est sage. Dieu ne nous bénit pas pour que nous soyons indépendants. Ça, c'est impossible. Si vous le trouvez dans la Bible, eh bien, venez me le dire, j'inclurai ça dans mes prochaines prédications. Dieu nous bénit pour nous rendre utiles aux frères et sœurs. Alléluia. Et si vous faites des progrès en restant seul dans votre coin, eh bien, venez me l'expliquer. Dieu ne nous fera pas faire des progrès si c'est pour faire de nous des gens indépendants. D'ailleurs, moi, ça fait quand même, bon, ça fait, par rapport à certains, c'est peut-être peu. Mais il y a 34 ans que je suis pasteur, et je peux vous dire que je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est isolé ou quelqu'un qui a fait une division être béni. Pourquoi ? Parce que même dans un contexte de souffrance, on peut devenir l'homme que Dieu veut, la femme que Dieu veut. D'ailleurs, c'est quand même bien de voir. Faites-le vous-même. Dans 1 Samuel au chapitre 3, qu'est-ce qui est dit ? Voyez ? Qu'est-ce qu'il était dit ? C'est des clés pour nous comprendre comment ça marche. C'est écrit, voyez, 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel, n'oubliez pas, c'était un enfant, il était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Pourtant, Élie, c'était pas un modèle. Oui ou non ? Il laissait tout faire. C'était vraiment un mauvais pasteur, vraiment mauvais. Verset 2. « En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Vous me permettez de le relire deux fois encore ? Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Le contexte est lamentable, le déclin est validé, c'est sûr. L'apostasie est totale. Le formateur ne vaut rien, ses yeux qui sont troubles, expriment, c'est pas une question physique, ça peut arriver ça, ça exprime qu'il n'a plus de vision spirituelle, la preuve, il n'a pas compris comment Anne répandait son cœur, etc. On peut avoir affaire à des responsables qui n'ont plus de vision spirituelle. Oui, j'allais dire, c'est grave, c'est très grave, mais Dieu, lui, il veut recommencer quelque chose. Pourquoi croyez-vous que Dieu, dans son infinie bonté, s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Moi, je lui aurais dit, je ne pensais pas qu'il y a de la légèreté dans ce que je dis. Moi, je lui aurais dit, Seigneur, ne te fais pas appeler le Dieu de Jacob. Parce que Jacob, ça a été un mauvais homme jusqu'à la fin. À partir de 60 ans, il a commencé à réagir. Mais il aime s'appeler le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des recommencements. Dieu a ce pouvoir, même quand tout va mal, de prendre quelqu'un, serait-ce un enfant, et j'insiste parce que c'est là que ça nous défait complètement. Vous vous rendez compte? Et cet enfant qui était au service de Dieu, il est dit ailleurs qu'il grandissait dans les voies du Seigneur. Pourtant, le contexte était archi mauvais. Je vous dis, il n'y avait que sa mère, qui rendait un bon témoignage. Est-ce que ça peut arriver, ça, que dans une église, il n'y en ait que quelques-uns qui rendent un bon témoignage? Est-ce que ça peut arriver? Oui, ici, ce n'est pas le cas. Mais ne focalisez pas sur quelqu'un qui rend un mauvais témoignage. Car hélas, et ça me réjouit énormément, dans l'église, il y a des gens qui rendent un mauvais témoignage. Pour un pasteur, c'est un grand honneur, ça, voyez. Lorsque des gens écoutent la parole et qu'au bout de 5 ans, 10 ans, ils n'ont fait aucun progrès. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont choisi. C'est un choix, Judas a choisi d'aimer l'argent plus que Jésus, alors que quand même. Hein. Et Samuel, un enfant, je le répète parce que moi, ça m'a travaillé toute la semaine. Et je pense que c'est aussi pour moi, mais c'est pour vous aussi. Un enfant, il était au service de l'Éternel devant Élie, apprendre, malgré tout le déclin, à se travailler dans une soumission, dans une intersoumission. Quelqu'un qui est spirituel, eh bien, il a cette intelligence de travailler dans la soumission, l'intersoumission. Soyez remplis du Saint-Esprit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Dans l'Église du Seigneur, il doit y avoir ce profond respect les uns vis-à-vis des autres. Oui ou non? Et Samuel avait certainement appris, pas d'Élie, je le pense, mais de sa maman, combien il est important d'être à sa place. Et que quand on commet une erreur, il faut faire attention de ne pas trop s'éloigner. Jeudi soir, Jonathan Guyot nous rappelait combien c'était beau et important que quand Pierre a renié Jésus pour la troisième fois, il nous ait dit qu'il a croisé le regard de Jésus. Béni soit Dieu pour nos erreurs quand on ne se trouve pas trop loin du Seigneur. Les erreurs qu'on commet quand on n'est plus au regard du Seigneur, ça peut être tragique. Que nous ayons toujours la conscience de son regard sur nous, plein d'amour pour nous ramener. Et Samuel, enfant, c'est pour ça, je leur ai dit aux parents, écoutez, ne pensez pas que je vieillis et que je deviens sénile. Je vous le dis les parents, vos petits, bichonnez-les spirituellement. Vous ne savez pas ce qu'ils deviendront. Même si Jésus revient bientôt, est-ce que Dieu peut bénir un enfant pendant les 6 mois qui restent par ses prières? Oui, apprendre quelqu'un à prier, car si Samuel est devenu cet homme qui grandissait dans les voies de Dieu, c'est parce que c'était un homme qui aimait la prière. Hier, en préparant ce sermon, je repensais à la façon dont des siècles plus tard, Dieu parle de Samuel. Lisez-le avec moi, ça vaut la peine. C'est quand même quelque chose. Pourquoi un enfant est-il devenu ce serviteur de Dieu? C'est dans Jérémie. Dans Jérémie, au chapitre 15, bon là aussi, ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très bien. Et Dieu dit quelque chose par rapport à l'intercession. Et il parle de Samuel. C'est des siècles passés. Mais vous savez, Dieu n'oublie pas ses enfants, croyez-moi. Jérémie, chapitre 15, verset 1er. Regardez si ce verset, il en dit long sur ce que je suis en train de vous dire. Jérémie 15, verset 1er. L'Éternel me dit, regardez bien, frères et sœurs, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Moïse et Samuel, vous le savez, étaient vraiment des hommes de Dieu. Un était vieux, l'autre était enfant, quand ils ont été appelés. Mais c'est ça l'équilibre de la parole, que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux, nous pouvons devenir des hommes et des femmes de prière. Ce texte, il nous dit que si Samuel et Moïse ont été ces hommes de Dieu, c'est parce que ça a été des hommes de prière. Samuel était un homme de prière. D'ailleurs, il dira plus loin dans une situation, loin de moi la pensée d'oublier de prier pour vous. Et un chrétien qui va être utilisé, un enfant, doit apprendre à prier. Samuel était un homme de prière. Il a appris la prière. Le peuple se sclérosait, tout le peuple se sclérosait, lui, tout seul, enfant. Il est écrit, vous n'avez pas perdu la page, il grandissait. 1 Samuel 3, 19. Samuel grandissait. Vous rendez compte, il est seul avec sa maman. Mais sa maman, il ne la voit pas tout le temps. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Quand vous lisez la suite, le chapitre 4, ça dégringole encore plus. L'arche va être prise, c'est catastrophique. Ça n'empêchait pas que lui, malgré l'apostasie qui continuait, lui devenait l'homme que Dieu préparait. Et ne vous laissez pas effrayer par l'apostasie. L'apostasie, elle s'aggravera. Mais il y aura des vainqueurs, des hommes, des femmes qui, comme Anne, comme Samuel, s'appliqueront à grandir, même si la présence de Dieu sort des églises, mes frères et sœurs, Dieu regarde les justes. Les regards de Dieu sont sur les justes. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point ces histoires, elles sont merveilleuses et encourageantes. Mes frères et sœurs, oui, la souffrance, utilisez-la, utilisons-la pour grandir avec Dieu. Parce qu'un des buts de Dieu, c'est le corps de Christ, la construction de l'Église. Un des buts de Dieu, c'est notre formation spirituelle personnelle. D'un côté, je suis seul avec Dieu et j'apprends à servir Dieu pour devenir non pas indépendant, mais devenir utile. Nous, on a entendu, je ne sais pas combien de fois dans l'Église, je prends du recul. C'est un des pièges les plus graves dans lesquels on puisse tomber. Si quelqu'un se retire dans le jeûne et la prière pour chercher Dieu, ça, ce n'est pas prendre du recul. Mes frères et sœurs, si Dieu vous bénit, il vous rendra utile. C'est pas possible autrement, écoutez. Ou alors vous avez une Bible qui est vraiment différente de la mienne. Quand Dieu bénit un homme, il le rend utile. Vous rappelez cette parabole que Jésus adresse un jour, c'est la parabole du figuier inutile. Vous la connaissez cette parabole? Il y en a qui l'ont pas lu, on va la lire. Regardez cette parabole, elle est terrible. Parce qu'un jour, on le réalise plus ou moins, mais nous allons tous comparaître devant le Seigneur. Vous le croyez? J'ai l'impression peut-être même que Philippe a déjà comparu, parce que j'ai entendu ce matin qu'il avait jeté déjà sa couronne. Vous avez déjà eu votre récompense, Philippe? J'ai écouté votre prière. Luc 13, c'est une façon de louer. Luc 13, verset 6, vous inquiétez pas, c'est pas anti-biblique. Luc 13, verset 6. Regardez cette parabole. Quel drame! Quel drame! Lorsqu'un chrétien est inutile. Lisez-le avec beaucoup de respect, c'est Jésus qui parle, n'oubliez pas. Luc chapitre 13, verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre ? Inutilement. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Cette parabole, c'est le Seigneur qui pose une question, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Vous comprenez bien que Dieu, même si c'est Dieu qui a créé les figuiers, il ne s'intéresse pas à ce moment-là aux figuiers, il s'intéresse à l'utilité des gens. Et moi, en tant que votre pasteur, sérieusement, on va prendre le pain, le vin. Ou alors on vit un culte comme on vit d'habitude, c'est-à-dire un culte où on se plaît. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas du tout de mépris. On se plaît, on est heureux dans la communion fraternelle, on donne notre offrande, on permet l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a un travail qui se fait, c'est évident. Ne voyons pas comme certains le verre moitié vide. Sachons voir le verre moitié plein. Il y a des gens, ils sont tout le temps négatifs. Je peux vous dire que les gens négatifs, ils ne reçoivent pas beaucoup du Seigneur. Si vous êtes tout le temps, je le dis parce qu'il faut le dire, c'est pas de la mauvaise langue. Si vous êtes tout le temps en train de dire, ouais, ceci, ça va pas, vous ne recevez rien de Dieu. Croyez-moi, je l'ai vécu. Quand vous recevez de Dieu, vous êtes utile. Et cette parabole qui est là, qui fait peur, elle fait peur cette parabole. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est une question, c'est Jésus qui la pose. Il la pose à l'Église au travers des siècles. Est-ce que tu occupes la terre inutilement? Voilà, c'est une question. Vous devez répondre, vous devez absolument répondre. J'occupe la terre, c'est vrai, ça fait, tiens, j'ai 59 ans, je suis sur terre, je suis chrétien depuis 23 ans, est-ce que j'occupe la terre utilement? Est-ce que c'est une question à propos ou non? Oui, c'est une question intelligente, puisque c'est Jésus qui la pose. Est-ce comment j'occupe la terre? Est-ce que voilà, Seigneur, mes souffrances, mes joies, est-ce que ma vie, tout ce que je traverse depuis que je suis au Seigneur, est-ce que tout ça, ça contribue à me plonger dans le royaume de Dieu, à me laisser dans le royaume de Dieu, à me faire grandir dans le royaume de Dieu, même si je suis tout seul avec ma maman, si je suis tout seul avec une sœur? Et alors, Dieu a commencé son œuvre et il l'achèvera. Si vous ne le croyez pas, c'est que vous ne le connaissez pas. Le Seigneur Jésus trouvera des hommes et des femmes que ce soit dans les églises évangéliques, dans les églises pentecôtistes, libres, baptistes, nous, tout ça, on est coincés là-dedans. Mais moi, je peux vous dire que Dieu trouvera des Anne, Dieu trouvera des Samuel, Dieu trouvera des enfants, Dieu trouvera des jeunes, Dieu trouvera des vieux. Quand je suis arrivé à Sainte-Anne, il y avait un jeune de l'église, enfin, il avait mon âge à l'époque, on avait à peu près 40 ans, il m'avait envoyé un courrier. Il m'avait envoyé, mais d'une grande spiritualité. Et il m'avait dit, je vous le dis comme c'est écrit, les vieux, il faut les foutre dehors. Et moi, ça ne m'a pas fait rire, hein, du tout. Parce que c'était vraiment bien dit. Et je lui ai dit, dans la Bible, moi j'ai vu que les jeunes et les vieux, ils travaillent ensemble. Et voyez, il y a des méthodes, elles ne sont pas écrites dans la Bible. Moi, je crois que dans une église, on travaille ensemble. Et on apprend les uns des autres. L'Éternel, Samuel grandissait. Et il a eu besoin d'apprendre. Et je termine avec ce poème, même s'il y en a d'autres que vous pouvez découvrir. Et c'est ça, le parce que ça, c'est mon domaine, si vous voulez, la formation pastorale. C'est que je sais qu'il y a des choses qu'on apprend par les autres. Normalement, dans une santé normale, c'est Élie qui aurait dû tout apprendre à Samuel. Mais comme Élie n'allait pas bien, Élie et Samuel a dû, et là on le voit dans la façon dont Dieu appelle Samuel, pourquoi c'est relaté, c'est presque drôle cette affaire. Vous savez, quand il appelle Samuel, Samuel il va voir, tu m'as appelé, non, c'est pas moi, attends. À la troisième fois, vous voyez, bon, c'est écrit, pourquoi? Parce que nous avons besoin de comprendre que quand les choses ne vont pas, si vous ne pouvez pas apprendre de votre pasteur, si vous ne pouvez pas apprendre de votre responsable, vous apprendrez de Dieu lui-même, gloire à Dieu. Et on le voit, Paul dit, j'ai appris à être content, j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vous aimer les uns les autres. On apprend des autres, on apprend des frères, on apprend des sœurs. Et c'est ça la beauté de l'Église, c'est que vous allez apprendre quelque chose de moi, vous allez m'apprendre quelque chose, etc. On est dans cette grâce d'apprendre. Mais en vérité, quand les choses s'aggravent, quand les choses deviennent très graves, Dieu peut vous parler. Et vous apprendre cette honnêteté. Vous avez vu quand Dieu va parler à Samuel, il va lui expliquer ce qu'il va faire. Il révèle le plan à un enfant. Et le lendemain, bien sûr, il n'a pas été lui le dire à Élie. Mais Élie, il a compris. Il n'était pas, même s'il n'était pas bien spirituellement, il avait quand même réfléchi qu'il y avait quelque chose. Il va voir Élie. Samuel, un enfant. Samuel, tu vas me dire tout ce que l'Éternel t'a dit. Et il va lui dire. Et là, j'allais dire, tu comprends pourquoi Dieu a choisi Samuel. Parce qu'il a été honnête. Et dans le royaume de Dieu, Dieu sait ce qu'il faisait quand il a éprouvé Anne, quand il a formé Samuel, parce que s'il ne l'a pas formé au travers de Élie, il l'a quand même formé au travers de sa maman. Et cette honnêteté, etc., cette intégrité, il l'a développée de tout petit. Et Dieu a vu cette honnêteté. Et reprendre quelqu'un. Est-ce qu'il faut reprendre les gens dans une église? Est-ce qu'il faut les reprendre? Eh bien oui! Qu'il faut les reprendre, il faut le faire avec douceur, il faut le faire avec amour. Mais quand on voit des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Et cette honnêteté, cette intégrité dans le cœur d'un enfant va commencer, ou Dieu va recommencer son œuvre au travers d'un enfant honnête qui aime la justice. Et on pourrait, là, on n'a pas le temps. Mais mes frères et sœurs, l'Église va mal. Quand je dis l'Église, c'est le corps de Christ. Je pense à toutes les dénominations. L'Église va vraiment mal. Et alors, est-ce qu'il y a au milieu de nous un petit Samuel? Est-ce qu'il y a une petite servante? Est-ce qu'il y a un vieux Moïse? Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, ben moi je suis d'accord. Jusqu'à présent, je n'ai pas été beaucoup utile à l'Église. Je suis tout le temps en train de critiquer les Églises. Si vous faites ça, vous ne vous servirez pas. Mais quand vous vous tiendrez devant Dieu, vous grandirez. Et même si les choses s'aggravent, lisez-le. À un moment donné, la main de Dieu sera sur vous. Et Dieu vous utilisera. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait rester une minute dans le silence? Vraiment. C'est peut-être le moment le plus important du culte. Cette minute de silence. Où Dieu attend que vous lui répondiez. Dans le silence. Croyez-moi, il n'y a pas besoin que vous parliez haute voix. Croyez-moi. Répondez-lui sérieusement. Même si vous êtes un enfant, demandez-lui de l'aide, du secours. Je vais demander à Nicolas discrètement de demander à des frères de se préparer également. Mais je voudrais, frères et sœurs, que d'une manière sérieuse, dans nos cultes, des fois, il n'y a même pas une minute de silence. Ici ce n'est pas le cas. Hein. Ici, on l'a. Attention, mais quand je dis les cultes, je pense à toutes les églises. Cette minute, c'est la plus importante, je vous assure, mes frères et sœurs, du culte. Où tu vas dire au Seigneur, rends-moi utile. Rends-moi utile.